Salut, c'est François. On se retrouve sur Le Nouvel Automobiliste, Automatin et Road Story pour vous parler du nouveau Honda CR-V 2023-2024 que l'on a essayé en hybride classique et en hybride rechargeable. Honda a fait feu de tout bois en cette année 2023. Pas moins de 4 véhicules présentés en France. Nous découvrons ici le CR-V, le haut de gamme de la marque en Europe, qui nous revient en version hybride et hybride rechargeable. La version hybride classique reprend la même motorisation qui nous avait enthousiasmé sur la Civic avec quelques évolutions. Honda fait encore la démonstration de ses capacités de développement technologique. Bon, on passe à l'extérieur. Le CR-V de la 6e génération grandit de 11 cm pour atteindre 4,71 m, soit à 1 cm près la taille d'un de ses principaux concurrents, le nouveau Renault Espace. Le design extérieur est très classique et consensuel, avec deux petits points à retenir, les rétroviseurs placés sur le haut des portières pour dégager un espace au niveau du montant, pour réduire l'angle mort côté portière, et des rails de toit assez protubérants pour simplifier l'installation des barres de toit. Sinon, pour le reste, l'avant, c'est le Honda actuel, et l'arrière, c'est un peu l'arrière de tout le monde. On va passer à l'intérieur qui est plus intéressant. Si le positionnement de Honda pour le CR-V est de façon affirmée le premium, quand on monte à l'intérieur, on découvre une Honda classique. C'est bien fini, bien ajusté, mais tout de même un petit peu austère. Par contre, ouf, la commande de climatisation reste physique et n'a pas migré sur l'écran. Et pour égayer un peu l'intérieur, on nous propose des petites touches sympathiques comme les grilles et bandeaux de ventilation que l'on a déjà vus dans la Civic. En clair, c'est très bien fini, mais cela ne fait pas ultra luxe. A noter, l'affichage tête haute, comme le système Bose ou la caméra 360 degrés, fait partie des équipements de série, seulement accessible sur la version haut de gamme, disponible uniquement en PHEV, donc en hybride rechargeable. La sellerie est en cuir dès le premier niveau d'équipement, comme le toit ouvrant panoramique. Si on parle de cuir, il faut parler du volant en vrai cuir. Dieu que c'est bon qu'il ne soit pas en plastique, vegan, comme on dit maintenant. En clair, ça fait du bien. Un autre petit regret, mais je suis un vieux con rétrograde, nous n'avons plus de commande de boîte auto classique, vous savez, un peu hanté, mais 4 boutons sur la console centrale. Si l'espace avant ne donne pas une impression de démesure, à l'arrière, il y a beaucoup de place et la banquette arrière peut voir son dossier s'incliner sur près de 16 crans, donc on peut vraiment s'installer bien. Par contre, toujours une partie centrale de la banquette arrière qui est un petit peu dure côté dossier avec un accoudoir intégré. C'est un peu dommage pour une familiale. Point d'ailleurs important à souligner, le CR-V n'est disponible qu'en 5 places, quelle que soit sa motorisation. Côté coffre, c'est tout à fait suffisant pour voyager à 5. Vous disposerez ainsi de 596 litres en hybride non rechargeable et 588 litres même en version 4 roues motrices et près de 635 litres en version rechargeable. Pas très logique, mais l'emplacement différent des batteries selon les motorisations explique cet écart. Et si on parlait moteur, eh bien côté motorisation, on retrouve l'ensemble de la Civic. Un moteur thermique, un 2 litres à cycle Atkinson de 148 chevaux, donc c'est un moteur qui est fait pour tourner quasiment un régime constant qui alimente un moteur électrique de 184 chevaux. Celui-ci entraîne les roues la majorité du temps. Mais si nécessaire, le moteur thermique entraîne aussi la transmission en parallèle du moteur électrique. La grosse évolution est la présence de deux vitesses où il n'y en avait qu'une seule sur Civic et HR-V. Le schéma de fonctionnement est complexe mais fonctionne de façon plutôt très fluide. L'hybride rechargeable se transforme en hybride classique lorsque la batterie est vide. Et c'est difficile de la vider. Et la surconsommation par rapport à l'hybride simple, est d'à peine 0,5 litres. Donc c'est carrément très optimisé, alors que sur de nombreux véhicules de la concurrence hybride rechargeable, la consommation explose à partir du moment où votre batterie est vide. L'autre valeur ajoutée aussi de la version hybride rechargeable, c'est le potentiel fonctionnement cumulé du moteur électrique et du moteur thermique, on vous l'a dit, qui permet de proposer une capacité de traction de 2500 kg pour seulement 750 kg pour la version hybride classique. On retrouve la simulation de passage de vitesse que l'on avait appréciée sur la Civic, mais c'est moins fun avec tout ce poids à tracter. L'ensemble marche bien et malgré la complexité du système, comme je l'ai dit, le fonctionnement est très fluide. Les deux autos sont données pour environ 195 km/h, quelle que soit la motorisation, mais ne vous méprenez pas, la masse à déplacer est conséquente. Sans être chargé et en étant seulement deux à bord, les performances ne sont pas ébouriffantes. Cependant, la boîte de vitesse et le couple important devraient permettre de ne pas avoir s'écrouler les performances une fois chargé. Sur les deux versions, les 160 km/h sont donc assez facilement atteints. Au-delà, il faudra prendre son temps et vivre en Allemagne. Côté consommation, avec l'hybride classique, nous aurons tourné autour de 7,5 litres en ayant une conduite, c'est vrai, très dynamique, à comparer aux 6,5 litres d'un espace dans les mêmes conditions et dans le même type de conduite. C'est encore et toujours ce même Renault Espace qui vient à l'esprit quand on cherche à comparer le CR-V. Nous n'avons pas pu essayer la version 4 roues motrices de la version hybride classique, mais nos camarades, autres essayeurs, ont constaté une surconsommation d'à peine 0,5 litre par rapport à la version 2 roues motrices, ce qui reste très raisonnable, car c'est une vraie 4 roues motrices. Sur la route, le CR-V est clairement typé confort. Même chaussée en Michelin, nous avons trouvé l'hybride manquant un peu de motricité, en particulier sur le mouillé, mais pour autant, nous n'avons pas ressenti ce manque de châssis sur la version rechargeable qui pourtant pèse près de 160 kg de plus. Point important, la suspension n'est pas la même sur les deux versions. Il s'agit d'un adaptatif entre guillemets mécanique passif sur l'hybride classique et actif dynamique sur la version rechargeable. Je m'explique. Sur la version hybride classique, la suspension adaptative est dite réactive. Quand la fréquence des infractuosités de la route est importante, un petit bypass s'ouvre pour assouplir la suspension. Et quand la fréquence est faible, le bypass se ferme et l'hydraulique est plus dur. Sur la version hybride rechargeable, la suspension adaptative est complètement pilotée. Un solénoïde ouvre et ferme le passage de l'huile des amortisseurs sur chaque amortisseur en fonction de la vitesse, du taux de lacet, je vous expliquerai ce que c'est que le taux de lacet, des jets latéraux et longitudinaux, du gaz mis à la pédale ou de la pression sur le frein ou de l'angle de virage. Donc, pour explication, le taux de lacet, ça nous indique et ça détermine si la voiture développe une tendance à tourner autour de son axe vertical. En clair, si elle a tendance à faire un tête-à-queue. En tout cas, nous avons préféré le toucher de route du rechargeable. Fort possible que les Michelin Low Emission manquent un peu de rigidité avec la suspension basique du HEV, donc de l'hybride classique. Toujours cette importance de l'accord pneumatique suspension sur des autos qui sont souvent très lourdes. Mais comme on est sûr de l'hybride, il faut parler recharge et autonomie. L'hybride classique a une toute petite batterie de 1,06 kW. L'hybride rechargeable dispose, lui, d'une batterie de 17,7 kW avec un chargeur embarqué de 6,8 kW. On peut espérer réaliser ainsi entre 60 et 80 km en full électrique sur la version rechargeable. Les réservoirs sont respectivement de 57 litres en hybride classique et 46 litres en version rechargeable. En étant pied tout léger, il doit donc être possible de faire près de 1000 km avec la version hybride classique. Pour information, les autonomies WLTP sont de 826 km avec l'hybride rechargeable et 966 km avec l'hybride classique. A noter que la version rechargeable intègre une fonction de préconditionnement de la batterie et de la voiture. On peut ainsi préchauffer la voiture, mais aussi optimiser le temps de charge de la batterie et de sa capacité à délivrer de la puissance en début de parcours. Et en la réchauffant, on s'assure aussi de ne pas avoir une surconsommation car la batterie est trop froide et qu'on doit la recharger en démarrant. La réchauffer en démarrant. Le chargeur donc domicile en AC sort un très beau, donc je l'ai dit, 6,8 kW, ce qui permet de la recharger environ en 2,5 heures à domicile avec une température ambiante raisonnable de 20-25 degrés. La version PHEV intègre aussi une analyse prédictive du trajet pour utiliser au mieux la batterie et optimiser la consommation, ce qui fait que d'ailleurs, on constate que la batterie baisse progressivement, mais pas très vite. On cherche vraiment à utiliser au mieux la batterie et le thermique en même temps. Côté électronique, l'écran central de 9 pouces tombe bien sous la main. Ce n'est pas gigantesque par rapport à la tendance actuelle, mais cela suffit largement. Les aides à la conduite sont souvent embêtantes à enlever, pour ne pas dire autre chose, d'autant que je les ai trouvées souvent intrusives sur les petites routes portugaises. Pour le confort des passagers avant et arrière, nous sommes dans luxe côté recharge, 3 USB-C, une USB classique et une recharge à induction refroidie et ventilée. Et ça, c'est top. Autre nouveauté par rapport à l'ancien CR-V, l'arrivée de l'affichage tête haute sur la version haut de gamme. Et maintenant, il faut parler du prix. L'hybride classique démarre à 54 980 euros en deux roues motrices et est à 57 980 euros en quatre roues motrices. Il y a près de 4000 euros de malus entre l'émission et le poids pour la version non rechargeable en 4 roues. Il faudra avoir une famille nombreuse pour avoir un petit peu d'exonération des malus pour survivre. La version rechargeable culmine, elle, à 63 150 euros, avec, il est vrai, beaucoup d'équipements. Honda nous avait habitués à être très compétitifs côté prix avec la Civic, par exemple. Une compétitivité clairement permise par un yen en pleine dégringolade avec des produits et des véhicules produits au Japon. Le CR-V 2023 est produit en Chine et le cours du yuan, lui, n'a pas baissé. L'Espace, qui est clairement un vrai concurrent, débute à 44 500 euros pour monter à 54 450 euros en version toute option. Et il est 7 places. Bon, il faut quand même rajouter un petit détail. Au tarif Honda, le moteur est garanti 10 ans, le reste de la voiture 3 ans. Sans parler de la réputation non usurpée de fiabilité de la marque. Petit point équipement, la finition exécutive qui est donc proposée sur l'hybride classique 2 et 4 roues motrices intègre la navigation, une conduite semi-autonome, le toit panoramique, la sellerie cuir et la peinture métal. La finition Advance, qui est disponible que sur l'hybride rechargeable, rajoute à ses équipements l'affichage tête haute, une caméra 360 et un système audio Bose qui fonctionne très bien. Petit rappel bonus malus, le rechargeable n'a aucun malus ni poids ni émission et comme je vous l'ai dit, le 2 roues motrices aura 1210 euros de malus au poids plus 450 euros de malus CO2 et le 4 roues aux alentours de 4000 euros de malus cumulé poids et émissions. La conclusion, c'est que Honda, c'est toujours très bien, mais le tarif aujourd'hui est peut-être un petit peu présomptueux, même si les premium concurrents allemands sont dans des tarifs stratosphériques.